bon plaisir de Francis Ponge, présenté par Jean Dève, avec André Duboucher, Jacques Derrida, Jacques Dupin. Réalisation, Jean-Michel Bernot, Daniel Bizien, Pamela Dousseau.
J'ai donc dit qu'il fallait faire tout passer par un seul moyen, choisir un moyen d'expression et s'y tenir. Et c'est pour ça aussi que moi-même, je peux dire que la, comment dirais-je, quand j'ai la plume ou le crayon au bout des doigts, n'est-ce pas, parce que en général, je n'écris pas directement la machine à écrire. C'est très rare. J'écris presque toujours, c'est du manuscrit autographe, n'est-ce pas. Et j'écris avec une pointe bic, ce qu'on appelle un marqueur, enfin si vous voulez, car avant c'était un stylo, maintenant c'est ça, ça a changé. Vous avez vu le nombre de marqueurs que ici. Eh bien, ça, j'ai l'impression que ça fait partie, que c'est un prolongement de mon corps, si vous voulez. Et tout passe comme si c'était une humeur, comme l'encre. L'encre fait partie des humeurs corporelles. C'est comme le sang ou le sperme. Enfin, ça fait partie des humeurs corporelles. Ça fait partie de mon corps. Le corps n'est pas séparé, si vous voulez. Le liquide, c'est du sang, c'est du sperme. Enfin, ça fait partie des humeurs corporelles. Je crois que c'est assez important pour que ça soit vraiment authentique. Enfin, ce sont des choses qui sortent vraiment du corps, enfin, qui font que le corps est impliqué dans la littérature. Voilà.
Quelle serait l'ambition suprême d'un texte ?
Oh, l'ambition suprême ? Il n'y a pas possibilité d'arriver à un succès complet, n'est-ce pas ? Pas possible. Par conséquent, tout ce qu'on écrit, ce sont des relations d'échecs. Et on essaye de faire que la relation, la narration d'un échec, n'est-ce pas, soit aussi plaisante que possible, c'est tout. N'est-ce pas ? C'est aussi agréable que possible. C'est la raison de mes textes, de La Rage de l'Expression, enfin, ou de Forêt du Pré, de La Corvette, de La Figue, etc. Choses comme ça, c'est toujours en essayant de rendre aussi peu désagréable que possible, aussi plaisante que possible, la relation d'un échec. Parce qu'au fond, il s'agit quand même de plaire. Ça, c'est un principe classique, n'est-ce pas ? Il faut plaire. C'est la règle de l'art. L'art est fait pour donner à jouir à l'esprit humain. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous laissez glisser dans l'étymologie ? C'est un mode de communication ?
Eh bien, n'est-ce pas, je pense que si je m'occupe beaucoup d'étymologie, c'est-à-dire des racines des mots, n'est-ce pas, vous comprenez ce que nous disons ? C'est parce que je pense qu'il est absurde de faire ce qu'ont fait des gens que j'admire énormément, comme Joyce, par exemple, James Joyce, ou Pound, dont j'aime beaucoup Ezra Pound, dont j'aime beaucoup certaines choses, les choses des Cantos Pisanos, de Pease, quand il était en prison, et qu'il était alors à ce moment-là, bon, son érudition était pour lui la façon de vivre. Enfin, c'est-à-dire que c'est les chants qu'il a fait à partir d'une chose qui était passée justement dans sa physiologie, si vous voulez, qui n'était plus la illusion livresque. Mais ces gens qui font comme Joyce, n'est-ce pas, qui prennent ici dans toutes les langues, et dans toutes les langues, même les langues orientales, même les langues anciennes, même les langues, le chinois, le japonais, Dieu sait quoi. Joyce fait ça, beaucoup plus encore dans Finnegan's Wake que dans Ulysses, n'est-ce pas ? Mais, eh bien, c'est utopique, c'est des mots que pour les intellectuels, n'est-ce pas ? Ça ne peut pas. C'est aussi utopique que l'espéranto, c'est-à-dire ça ne réussira pas mieux qu'elle n'a jamais réussi l'espéranto. Et je crois que la seule chose qui soit vraiment, raisonnable, si vous voulez, c'est de se plonger dans sa propre langue, c'est la langue maternelle pour les Français, le français, et d'aller de plonger à l'intérieur, c'est-à-dire d'aller à la langue mère, le latin pour 80% pour les Français, et ensuite le grec, le, je sais pas quoi, mais jusqu'aux racines védiques. Mais dans de, et voilà pourquoi je m'intéresse tellement à l'étymologie et à la racine des mots. C'est pour plonger dans la, comment dirais-je, pour regarder la langue française en face, la regarder les yeux dans les yeux, comme disait le Giscard là. Mais de façon à la dévisager, comme le met au sens alors étymologique, à faire que on se rende compte de ce qu'elle est au fond, c'est-à-dire qu'elle est une langue romane, enfin si vous voulez, et une langue, comment dirais-je aussi, qui vient finalement, dont les racines principales viennent quand même du sanskrit, des racines védiques. Voilà. Allons-y.
Francis Ponge, vous êtes l'auteur célèbre du Parti pris des choses et de nombreux textes en suspens comme Ode inachevée à la boue, Première ébauche d'une main, Ébauche d'un poisson, Introduction d'un galet, Note prise pour un oiseau, La crevette dans tous ses états, Le carnet du bois de pin. Mais vous êtes surtout, pour moi, l'auteur de deux livres importants du XXe siècle, La fabrique du pré et Pour un malherbe. C'est que pour la première fois, un écrivain, le travail d'un écrivain s'identifie à l'extrême mobilité, aux limites même de la langue. Je pourrais même parler de caméra mobile à propos de vous, cadrant, prenant, balayant le plus secret, le plus lointain, le plus flou, le plus intime aussi. Alors qu'au départ, vous apparaissiez comme quelqu'un qui écrivait, qui voulait écrire contre la parole.
Eh bien oui, mais j'ai été amené à me débarrasser de cette impossibilité de parler ou cette difficulté à parler. Et donc, au moment où je disais cela, c'est parce que j'avais en effet une espèce d'impossibilité de m'exprimer de façon orale, parce que j'avais l'impression que j'étais bon à l'écrit, comme j'ai toujours été dans les concours, dans les examens, mais qu'à l'oral, j'étais gêné parce qu'il me semblait toujours qu'on n'avait pas le temps à l'oral de corriger ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tenir vraiment compte des erreurs à corriger. Pour qu'un texte, enfin une expression, par les mots soit valable, il faut qu'elle résiste au plus grand nombre de points de vue critiques qui peuvent lui être opposés, à laquelle elle peut avoir affaire, et par conséquent au plus grand nombre possible de points de vue critiques, enfin un peu de tous les côtés. Et c'est pour ça que je me refusais à accepter de m'exprimer oralement. Ensuite j'ai été corrigé de cette histoire de façon très simple. C'est parce que j'ai dû à un moment donné accepter un travail, en particulier, j'y ai été obligé parce que les parents de la jeune fille dont j'ai désiré faire ma femme, et que vous venez de rencontrer, n'auraient certainement pas donné leur fille, qui était d'ailleurs mineure à l'époque. Donc j'ai pris un travail, je me suis fait nommer dans un endroit qui était d'ailleurs une sorte de bagne qui s'appelait les messageries Hachette, et où j'ai été immédiatement pourvu d'un appareil à dicter, ça s'appelait Ediphone, c'est-à-dire que j'avais à dicter je ne sais pas combien de lettres, de notes de service et de lettres, si bien que j'ai été amené à parler. J'ai parlé beaucoup, naturellement dans un style spécial, et c'était enregistré sur des rouleaux qui passaient ensuite au service de dactylographie, où elles écoutaient, elles tapaient en écoutant. Voilà comment ça s'est fait, ça s'est débloqué.
Le mollusque. Le mollusque est un être presque une qualité. Il n'a pas besoin de charpente, mais seulement d'un rempart. Quelque chose comme la couleur dans le tube. La nature renonce ici à la présentation du plasma en forme. Elle montre seulement qu'elle y tient en l'abritant soigneusement dans un écrin dont la face intérieure est la plus belle. Ce n'est donc pas un simple crachat, mais une réalité des plus précieuses. Le mollusque est doué d'une énergie puissante à se renfermer. Ce n'est à vrai dire qu'un muscle, un gond, un blount et sa porte. Le blount ayant sécrété la porte. Deux portes légèrement concaves constituent sa demeure entière. Première et dernière demeure. Il y loge jusqu'après sa mort. Rien à faire pour l'en tirer vivant. La moindre cellule du corps et de l'homme tient ainsi, et avec cette force, à la parole, et réciproquement. Mais parfois, un autre être vient violer ce tombeau, lorsqu'il est bien fait, et s'y fixer à la place du constructeur défunt. C'est le cas du pagure.
Le parti pris des choses, 1942. Il faut quand même dire aux auditeurs que nous sommes chez vous, à Bar-sur-Loup, dans votre bureau, je suppose.
C'est cela.
J'aimerais bien que vous nous décriviez le paysage assez extraordinaire que l'on voit
c'est
de votre table.
Notre maison au Bar-sur-Loup, que nous avons achetée grâce à la vente d'un crayon compté de Sora, qui m'avait été légué. Alex Guillain, la compagne de votre cuisine, qu'il avait eu directement de Fénéon, vous savez, qui avait fait. Alors, j'ai vendu, j'ai justement fini par vendre ce crayon compté. Et par ailleurs, aussi une petite partie de la somme qui était nécessaire à l'achat de cette propriété était fournie par la vente, une petite partie, par la vente d'un panneau de Jean Dubuffet, qui était dans notre appartement de la rue Lomont, et dont j'ai pu vendre une partie a été fournie par cela, mais la plus grosse partie par le crayon compté de Sora, évidemment, qui a été vendu très cher. Si bien que vers soi, nous avons dû signer ce qu'on appelle. Je ne m'en rappelle plus comment d'ailleurs, enfin le projet d'achat en 60 ou 61, et nous sommes installés en 62, je crois.
Pourquoi le choix de ce paysage ?
Il y a des endroits qui rappellent la Toscane, ou l'Ombrie, enfin des choses comme ça, et d'autres, enfin qui sont carrément méditerranéens. Non, nous avons choisi cet endroit. Vous savez, nous sommes tous deux d'origine méridionale, c'est-à-dire que je suis moi-même né à Montpellier, mais d'une famille nîmoise, descendant d'ailleurs des Cévennes, naturellement. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait, comment dirais-je, profession d'écrivain régionaliste. Naturellement, j'ai des ancêtres qui ont été aux galères, parce que naturellement, c'est la tare des calvinistes, enfin des protestants qui ont subi les guerres de religion. Et ma famille est descendue des Cévennes, des Hautes-Cévennes, enfin, des régions comme Sainte-Croix-Vallée-Française, etc. Petit à petit, vers Saint-Jean-du-Gard et vers, ensuite, là, comment dit-on, c'est la Corniche, n'est-ce pas ça? Et vers, ensuite, la Garrigue et Nîmes. Mais ma famille paternelle a vécu pendant des siècles à un endroit qui s'appelle Quissac, n'est-ce pas, pendant des siècles, et qui est tout près d'ailleurs des endroits où étaient aussi des gens qui ont, avec qui nous avons été très liés, par exemple avec les gens qui s'appelaient de Salinelle, et aussi avec, enfin c'était un petit au bord de la région, et aussi avec Mandiargue. Dans des régions comme les Cévennes, par exemple, ces endroits où vraiment la majorité des gens étaient protestants, eh bien, il y avait, si vous voulez, chez le notaire qui était protestant, et se mariaient des protestants de la montagne. Et ce qui est très curieux, c'est que à ce moment-là, vraiment, il n'y avait pas de distinction entre les classes. Je sais bien que nous étions, c'était une minorité, n'est-ce pas? Les protestants étaient une minorité d'ailleurs qui subissait, vous savez ce que c'est, ça a été les guerres de religion, les dragons de Villars et tout ça. Mais le fait est que, à ce moment-là, on se serrait les uns contre les autres, et il était pas rare de voir un simple voiturier ou un simple, comment appelle-t-on ça, tâcheron, qui épousait une fille noble. Dans notre généalogie, il y a une très grande quantité de membres de l'aristocratie. Enfin, tout ça, c'est, je vous dis, en même temps, je me suis amusé à faire le compte des gouttes de sang que je peux avoir, qui sont, qui viennent de Hermeline de Gourdon, parce que ça remonte à Louis VI le Grand, c'est-à-dire que nous avons une ascendance royale par ces gens-là. C'est infime, enfin, vous savez. Et puis tout le monde descend certainement de Louis le Gros, enfin, comme nous, enfin, puisqu'à l'époque, c'est très drôle comme la généalogie se produit, c'est comme ça, puis comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est toujours les mêmes, enfin, parce qu'évidemment, il n'y avait pas tellement de monde en France à l'époque. Voilà, alors pourquoi? Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai eu à prendre, à penser à quitter le travail et à prendre une maison de campagne, moi-même, je préférais sécher que pourrir, c'est-à-dire venir dans des endroits ensoleillés plutôt que de rester dans des endroits humides. Voilà. Alors, l'endroit est beau. Pourquoi? Enfin, aujourd'hui, il fait relativement clair. Hier, c'était épouvantable. Il est tombé des torrents de pluie. Enfin, ça a été effrayant. Et on ne voyait rien. Mais aujourd'hui, vous voyez le fond de la gorge, là. Alors, j'ai fait ouvrir dans cette maison. Il n'y avait que cette fenêtre-là. C'est l'est, ça. N'est-ce pas? C'est l'est. Ce qui est pas mal. J'ai fait ouvrir ces deux fenêtres pour avoir toutes les expositions, plusieurs expositions, et pouvoir jouer, justement, aussi bien pour la chaleur que pour la fraîcheur, si vous voulez aussi, et pour la vue aussi. Alors j'ai fait ouvrir ces choses-là, et nous avons là, au fond, la gorge supérieure du Loup, le Loup, comme un loup, n'est-ce pas, qui est un fleuve côtier. N'est-ce pas, qui se jette directement dans la Méditerranée à Villeneuve-Loubet, enfin, parce que les mots Loubet, tout ça, c'est toujours loup, n'est-ce pas, c'est le loup. Alors, ici, c'est Bar-sur-Loup, et il y a Tourette-sur-Loup, etc. Il y a une quantité de choses qui sont sur loup. C'est un fleuve côtier qui a une gorge supérieure, et nous sommes à l'endroit où ça s'évase, et nous sommes entre la gorge supérieure et la gorge inférieure. C'est une sorte d'amphithéâtre où nous profitons, si vous voulez, du fait que nous sommes un peu à l'abri des vents comme le Mistral, mais nous voyons passer les nuages très vite quand il y a le Mistral, mais enfin nous ne le subissons pas. Et par ailleurs, nous avons des événements météorologiques admirables, c'est-à-dire que pendant assez longtemps, par exemple, il y a encore quelques jours, la montagne là-bas au fond, tout à fait au fond, était couverte de neige. Et pendant ce temps-là, alors nous avons ça très souvent quand les orangers sont en fleurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a la chose vraiment très merveilleuse ici, c'est qu'on a à la fois dans le haut pays. Vraiment, ce sont des hauteurs relativement, enfin, assez hautes. Et puis en bas, il y a la mer où on peut se baigner. C'est-à-dire qu'il n'est pas si loin d'ici. Enfin, tout ça est lié à un tas de... Enfin, vous savez, le monde est petit, finalement. C'est toujours les
Tout se tresse. Francis Ponge naît le 27 mars 1899 à Montpellier. Son père, Armand Ponge, y dirige l'agence du comptoir national d'escompte de Paris. Il a épousé l'année précédente Juliette Sorel. Les deux familles sont protestantes, originaires des Cévennes, aisées, cultivées, contre lesquelles l'enfant n'aura pas à se révolter. Il grandit en Provence. Été, au bord de la Méditerranée, le mal n'existe pas. Les adultes sont parfaits et justes. Déménagement, Avignon, 1900-1909. Une maison entourée d'un grand jardin. Le jardin des générations présentes. Celui du père et du fils. Le jardin du lézard.
Le lézard. Lorsque le mur de la préhistoire se lézarde, ce mur de fond de jardin, c'est le jardin des générations présentes, celui du père et du fils. Il en sort un petit animal formidablement dessiné, comme un dragon chinois. Brusque mais inoffensif, chacun le sait, et ça le rend bien sympathique. Un chef-d'œuvre de la bijouterie préhistorique, d'un métal entre le bronze vert et le vif argent, dont le ventre seul est fluide, se renfle comme la goutte de mercure. Chic, un reptile à pattes. Est-ce un progrès ou une dégénérescence? Personne, petit sot, n'en sait rien. Petit sot, rien. Par ce mur, nous sommes donc bien mal enfermés. Si prisonniers que nous soyons, nous sommes encore à la merci de l'extérieur, qui nous jette, nous expédie sous la porte ce petit poignard. À la fois comme une menace et une mauvaise plaisanterie. Ce petit poignard qui traverse notre esprit en se tortillant d'une façon assez baroque, dérisoirement. Arrêt brusque sur la pierre la plus chaude. Affût ou bien repos automatique. Il se prolonge. Profitons-en, changeons de point de vue.
Le mal n'existe pas. Les adultes sont parfaits et justes. Déménagement 1909. Caen, c'est-à-dire le Nord. Vacances de Pâques au bord de la Méditerranée, vécues comme un déchirement devant la splendeur végétale. Francis Ponge, enfant, sait qu'il devra perdre le midi. Tout est nouveau, la Manche, les marais, l'Yode, les vents, le quartier gothique, l'eau du port rougie par le minerai de fer, le lycée Malherbe, où l'accent méridional provoquera bataille et différence. Le lycée, où se fait et se fera la rencontre avec Malherbe, justement.
Comment s'est écrit ce livre, Francis Ponge, pour un Malherbe, qui est un livre assez inclassable? C'est à la fois un journal...
Oui.
C'est aussi un poème, c'est aussi une méditation sur la poésie, sur Malherbe, sur vous-même.
Oui.
Parce que à partir du parti pris des choses, vous êtes caché quand même derrière les choses. Et ici, vous vous mettez comme en avant à travers Malherbe.
Oui, vous savez, quand on participe des choses, il faut dire aussi qu'on a beaucoup considéré le Parti pris des choses comme un livre fait uniquement de pièces sur les choses, comme ça, et très travaillé, n'est-ce pas, un peu comme des bibelots, et que c'est pas vrai. Enfin, qu'il y a dans le Parti pris des choses des textes qui sont jetés comme ça, très très librement, sans pas du tout travailler, qu'il y a des textes un peu de toutes sortes. Hein. Et on a eu tort de penser cela. Mais le fait est que le Malherbe, bon, je l'ai écrit comme ça, enfin, je l'ai écrit. C'est, tout ça, c'était des notes, naturellement, pour une édition de toute la poésie de Malherbe. Et il y a eu des projets qui ont été faits à ce propos-là. Eh bien, vous savez, j'ai passé au moins autant de temps et j'ai des dossiers sur les tentatives de faire éditer mon Malherbe, à la fois par Pierre, par Paul, par Le Seuil en particulier aussi, et aussi par Gallimard, naturellement, ça a commencé comme ça, puis par bien d'autres, n'est-ce pas, sans aucun succès, parce que...
Mais il faut bien dire aussi que la publication de Pour un Malherbe ne s'est pas faite sans mal.
La publication du Pour un Malherbe, peut-être, je ne m'appelle plus. Je ne me rappelle plus ça. Enfin, ça s'est fait quand même. Je crois que ça a même été réédité. Enfin, actuellement, ça fonctionne. Enfin, ça marche. Ça marche. Ça a été traduit, d'ailleurs, en grande partie, aussi en allemand, en américain, en anglais. Et ça fonctionne. Enfin, c'est... Mais le fait est que ça, c'est une édition...
C'est la première.
C'est la première, oui. Premier trimestre 65. Oui, c'est bien possible, oui.
Est-ce que vous trouvez la page, la bonne page ?
La page pour vous lire de mon texte. Voilà. Ben, je lis parce que je tombe là-dessus, pourquoi pas. Disons tout simplement que la place accordée aujourd'hui à Malherbe, bien qu'elle ait été un peu remontée, nous paraît tout à fait insuffisante, que notre goût le situe beaucoup plus haut et que notre intention est de contribuer à l'installer enfin où la postérité, à notre avis, le placera sans doute, au plus haut de l'échelle des valeurs, dans le Parnasse ou le Panthéon universel, au pluriel universel. Devrions-nous nous justifier d'avoir entrepris ce livre ? Nous en appellerions à plusieurs raisons. D'abord à notre imprégnation particulière, qui nous justifie d'entendre l'expression. Nous aimerions prendre le lecteur de plein pied, lui parler de façon à ne pas trop le surprendre, ni l'irriter. Notre système de valeurs nous y oblige, comme notre imprégnation sensible dès l'enfance nous y incite. Nos convictions ne nous l'interdisent pas. Notre sentiment intime est que Malherbe prendra un jour une situation prééminente dans le goût des hommes sensibles, nous voudrions rapprocher ce jour. Notre admiration et notre amour pour Malherbe ont toujours été fort violents, empreints d'une vénération quasi filiale que le décret dans lequel il est généralement tenu n'a fait que rendre plus violente encore. Nous le vénérons comme une feuille, si elle était consciente, vénérerait le tronc qui la supporte, souhaitant comporter toutes ses qualités, plus les siennes propres, et moins, évidemment, la ligneuse, la qualité du bois, enfin comme une feuille, oui. Alors, raison et raison, chez Malherbe ne raisonne pas à beaucoup près autant qu'il ne raisonne avec un « et » accent aigu. Il fait vibrer la raison. « Qu'en dis-tu, ma raison ?» C'est une citation de Malherbe. « Qu'en dis-tu, ma raison ?» Il s'agit chez lui d'un véritable surréalisme de la raison. Dès lors, de la raison RAI, dès lors, un mieux nommé raison est un accent aigu. Voilà le mot très simple que nous n'avions pas trouvé encore quand nous avons intitulé l'un de nos textes parus dans le surréalisme ASDLR, au service de la Révolution, les plus que raison. Et pourtant, nous l'avions conçu bien auparavant. Confère la dernière strophe du jeune arbre, parle contre le vent, auteur d'un fort raisonnement. C'est ce que j'appelle à présent la raison à plus haut prix, ou le paradis des raisons adverses. À la vérité, il ne s'agit pas chez Malherbe des raisons adverses, telle est notre divergence. cette confusion ou coordination sublime entre raison et raison résulte de ou s'obtient par la tension au maximum de la lyre, le style concerté, le concert des vocables. Malherbe a ôté plusieurs cordes à la lyre et d'autant plus tendues celles qu'il conserva. Ce classicisme-là, le seul qu'il soit de notre goût d'admettre ou de prôner, n'est que la corde la plus tendue du baroque. Ronsard et son école avaient ajouté je ne sais combien de cordes à l'instrument de nos anciens poètes. Des cordes et des rubans hellénistiques, Ronsard et son école. Après Malherbe, durant le XVIIe siècle, la corde se détend à nouveau. Elle se détend dès la satisfaction, entre guillemets, dès d'autre part que l'on part des règles au lieu d'y aboutir. Cette vibration de la corde la plus tendue, c'est exactement ce tremblement passionné, ce tremblement de certitude que P, c'est-à-dire Jean Poyon, jugeait odieux chez moi lorsque je venais de lui apporter mes poèmes. Oui. Il n'était pas content, Poyon, de relire ça. C'est le ton affirmatif du verbe, tout à fait nécessaire pour qu'il porte. C'est le oui du soleil, le oui de Racine, le oui de Mallarmé. N'est-ce pas? Le oui, je viens dans son temple, adorer l'éternel, oui, c'est ton roi, etc. Enfin, dans les débuts des tragédies de Racine. C'est le ton résolu, celui de ce que j'ai appelé la résolution humaine, celui de la résolution stoïque, à tout prix la santé, la réjouissance et la joie. C'est enfin la seule justification de la parole, prose ou poésie, une fois franchies toutes les raisons de se taire. C'est la décision de parler. Allons-nous écouter les conseils des concierges ou des malades décomplexés de la littérature? On nous fatigue et décourage en nous vantant incessamment les mérites de la modestie. Il s'agit, disais-je à propos de Mallarmé, de la massue, cloutée d'expressions fixes, permettant d'asséner le coup par supériorité, de la massue non signifiante. Eh bien, rien de plus beau, entre guillemets, de plus méritoire, de plus difficile, que de parvenir à porter ce coup à l'aide d'expressions signifiantes, valables sur le plan et au niveau de la communication, ou du discours, ou de la raison. Cette vibration de la corde tendue, ce tremblement à la fois de désir et de certitude, comporte nécessairement le sentiment de la victoire, de la conquête possible, donc d'un pouvoir, donc d'une supériorité relative, non tellement relative à son objet, mais relative à ses autres prétendants, si l'on y songe, donc l'orgueil. L'orgueil convient au poète, dit à peu près ménage, car il est un effet de leur enthousiasme. D'où, pour les petits esprits, son caractère odieux, et pour les grands, le caractère réjouissant, exaltant d'un tel précédent, d'un tel exemple. Malherbe est sans doute un des seuls poètes qui ait donné lieu à tant d'inimitié, connaissait et pu être consacré à cette passion. L'antipathie contre Malherbe part de Job. Donc, odieux, mais enthousiasmant à la fois, enthousiasmant et mécanisant, comme un ressort tendu entraîne des mécanismes. Et je n'emploie pas sans référence une telle expression. Ici, la citation de Pélisson à propos de l'effet produit sur le jeune de La Fontaine, Jean de La Fontaine, par la révélation de Malherbe, citation aussi de Baudelaire, de longues extases. Alors, c'est très curieux parce que, vraiment, ce qui est merveilleux, c'est ce que dit Pélisson dans l'histoire de l'Académie française de La Fontaine, qu'il ne se donnait à rien jusqu'à ce qu'un beau jour, un officier, alors qu'il était à Château-Thierry, il se promenait dans les bois, comme il était administrateur des eaux et forêts, vous savez, La Fontaine. Et il se promenait dans les bois comme ça, bon. Et en écoutant le corbeau, le renard et tout ça, bien sûr. Mais le fait est qu'il était là et qu'il se décidait à rien, enfin, il ne se vouait à rien de plus. Jusqu'au jour où un officier qui était là en permission, je sais quoi, Montcourgé a lu devant lui par hasard une ode de Malherbe. Je crois que c'était l'ode d'Henri IV partant pour le Limousin. Et alors, La Fontaine est tellement enthousiasmé qu'il il apprenait Malherbe par cœur et il allait le réciter dans les bois. Ensuite, il allait le déclamer dans les bois des environs de Château-Thierry. Et c'est-à-dire que ça l'a complètement changé. Et s'il a décidé de devenir poète, c'est évidemment à la suite de son enthousiasme pour Malherbe. Voilà.
Que la poésie pour vous était un exercice de rééducation verbale.
Oui, c'est exact. C'est aussi dans la mesure, comment est-ce que je pourrais dire, je ne sais plus, là je n'ai pas mes raisons tout à fait présentes à l'esprit actuellement. Pourquoi ai-je dit ça? C'était tout simplement parce que il y a des moments où on perd la parole orale, n'est-ce pas? Je crois que c'est un peu ça, et que la poésie était pour moi tout simplement une manière de retrouver la possibilité de parler, parce que la poésie, parce que la poésie est une manière de parler, la poésie comme je l'entends naturellement, et comme l'entendait Malherbe, est une manière de parler où même des choses comme la signification n'a pas tellement d'importance. Ça vient à égalité, si vous voulez, la signification de ce qu'on dit avec le concert de vocables. C'est-à-dire que la musique, simplement, la musique c'est trop dire, c'est pas la musique, c'est le rythme et la cadence. Dévocable. Alors, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment poésie. Et c'est seulement, naturellement, dans une certaine poésie qu'il y a ça. Non pas dans la poésie comme se l'entendait, comme l'a dit à un moment donné Paul Verlaine, par exemple, disant de la musique avant toute chose. Parce que ça, je trouve que c'est une imbécilité, puisque la musique est faite pour rendre émouvante une portion de temps. Tandis que dans la poésie, c'est simplement, c'est pas une portion du temps. C'est le sens, ça commence. À un certain moment, ça continue jusqu'à un autre moment. Voilà la poésie. Si les deux catégories principales sont la catégorie de l'espace et la catégorie du temps, eh bien, l'écriture comporte les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois le temps, c'est à la fois l'espace. Quand l'anthropoïde, si vous voulez, a tracé quelque chose sur les murs de Lascaux ou d'une autre caverne, n'est-ce pas, et que il a tracé quelque chose. Alors, il part à la chasse, il revient, et c'est toujours là. Par conséquent, c'est une preuve que l'écriture tient compte du temps, de la mémoire. Enfin, c'est-à-dire qu'il a la preuve que les écrits, le graphisme reste. N'est-ce pas, on dit verbal, n'est-ce pas, les paroles volent, mais les écrits restent. Ce qui est tracé reste. Et en même temps, il n'y a pas de doute, ça fait partie de la catégorie de l'espace, puisque c'est sur un mur, n'est-ce pas, comme une peinture. Enfin, c'est-à-dire que ça fait partie en même temps de l'espace et du temps. C'est-à-dire que l'écriture est la seule expression, façon d'exprimer, qui comporte à la fois les deux catégories principales, l'espace et le temps. C'est la seule. C'est ce qui fait que c'est très supérieur à la fois à la musique. Sinon, à la musique, comme l'entendaient par exemple les gens de Mantoue ou de Venise, comme Monteverdi, puisque lui, dans les récitatifs, la musique est seulement là pour, comment dirais-je, rythmer et colorer la langue, la parole, n'est-ce pas, dans les madrigales ou dans l'Orfeo de Monteverdi. Il est clair que la musique est là pour colorer, pour donner une dimension supplémentaire à la parole. Mais c'est la parole. Il faut qu'il y ait la parole. Quand s'il n'y a pas la parole, c'est ni un récitatif, ni un madrigal. Par conséquent, c'est évident que c'est comme ça. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Vous savez, quand... il y a encore, je ne sais pas qui raconte ça, je crois que c'est Voltaire qui raconte qu'il a entendu je ne sais quelle tragédienne qui était de l'époque un peu de la Chambellée, n'est-ce pas, et dire encore la tragédie comme la disait la Chambellée, c'est-à-dire un peu comme avec une espèce de mélopée. Enfin, c'était pas du tout les vers de Racine ou de Corneille était dit avec une espèce de musique. Enfin, c'est un peu comme ce qui venait du Moyen-Âge, enfin du chant des religieux, n'est-ce pas, des psaumes et des choses comme ça.
Alors quel est le rôle du livre par rapport à l'inscription? Est-ce que c'est le support idéal selon vous?
Oui, naturellement, le livre ou la feuille, ou le, comment est-ce que je pourrais dire, il y a aussi l'affiche, si vous voulez, il y a aussi le calligramme, enfin il y a un tas d'histoires de ce genre-là. Mais enfin, je pense qu'actuellement, il faut être raisonnable aussi, ne pas vouloir exagérer dans le paradoxe. Actuellement, c'est le livre, évidemment. C'est le livre qui représente. Et naturellement, je préfère aussi, je suis relativement, je ne suis pas bibliophile à proprement parler, mais enfin, un beau livre, c'est-à-dire un livre fait sur du beau papier, avec de beaux caractères, et quelque chose qui, à mon avis, enfin surtout si on se débrouille pour lui conserver sa fraîcheur, je ne dis pas que je le fasse moi-même, parce que je ne suis pas un bibliophile actif, enfin je veux dire, je suis plutôt passif, c'est-à-dire je me sers.
Quand je parle du livre, j'ai l'impression que vous êtes très sensible aux inventaires, je pense par exemple au grand recueil, au tome premier, vous serriez certains textes.
Oui, comme aux inventaires, je n'ai pas compris.
Non, mais dans le tome premier, oui. Dans le grand recueil, oui. Vous faites des ensembles, vous réunissez des textes.
Oui, non, le fait est que, vous savez, moi c'est très rare que j'écrive un livre pour faire un livre. J'écris une pièce, j'écris un texte, n'est-ce pas? Et ensuite, je recueille des textes écrits pour eux-mêmes et non pas pour faire un livre. C'est pour ça que j'appelle ça recueil, n'est-ce pas, parce que c'est ça. Il m'arrive de faire des textes, de faire des livres sur un sujet précis. Par exemple, le prêt, n'est-ce pas, bon, alors je montre la fabrique. Et aussi...
Au départ, vous ne montrez pas la fabrique, vous publiez le prêt.
Ça dépend.
Le numéro de la NRF.
Ça dépend. Parfois, je publie les ébauches avant. C'est rare, mais enfin, quelquefois. Et puis alors, il y a aussi... Comment est-ce que je pourrais dire? Oui, il y a les textes qui sont la révélation du travail, où le travail est plus important que le produit. Ça, c'est ce que Picasso m'a dit un jour Enfin, il avait beaucoup aimé, n'est-ce pas, de certains textes du Principe des choses, que, puisque il m'a fait dire par, à ce moment-là, c'était, comment s'appelait-elle, Doramar, n'est-ce pas, c'est Doramar. Et elle m'a dit, oh, mais il faut que vous veniez voir Pablo, il a tellement aimé votre livre, etc. Et alors, il se trouve que j'ai, à ce moment-là, j'ai donc vu Picasso, qui était immédiatement très très fraternel avec moi, enfin, il m'a choisi, si vous voulez, un peu de façon un peu bizarre, puisque même il était trop partial pour moi, puisqu'il a voulu, il voulait que ce soit moi qui fasse le texte, la bande parlée pour le film que René allait faire sur, comment s'appelle, la ville qui a été assassinée en Espagne.
Guernica.
Guernica. Il a voulu que ce soit moi. Et alors, bon, alors, René m'a envoyé son principal assesseur, nous avons commencé à travailler. Et puis voilà Picasso qui me téléphone en me disant, écoutez, je suis désolé, mais quand j'ai dit ça à Paul, il est venu vert. J'avais, Paul, c'était Éluard, il avait oublié. J'avais oublié son poème, parce qu'il y a un grand poème d'Éluard qui s'appelle Guernica. Il m'a dit, il est devenu vert, je ne peux pas lui faire ça. On fera autre chose ensemble, etc. Oui. Enfin, je veux dire qu'il... Vous voyez, il était... Là, il avait oublié, parce qu'il m'avait dit à moi, « Bon, ben, nous sommes de la même famille, vous ressemblez, j'ai des cousins qui vous ressemblent trait pour trait, il est évident que je suis aussi un peu un latin d'Espagne, enfin, si on veut. Enfin, c'est-à-dire que je suis... Dans mon nom, on dit que mon nom, c'est un adoucissement du Pons, P-O-N-S, de catalan, ou du Ponce, P-O-N-C-E, n'est-ce pas, d'Aragon. Alors, c'est assez merveilleux. Enfin, le fait est que Picasso, ensuite, plus tard, qui avait beaucoup aimé le parti près des choses, m'a dit qu'il préférait encore mes textes de la rage de l'expression. C'est-à-dire mes textes. Il me dit, nous, nous ne cherchons pas à faire des chefs-d'œuvre, nous travaillons. Nous montrons notre travail et nous datons tout ce que nous faisons pour que ça puisse servir de document. Ensuite, si on veut savoir comment, si on veut connaître l'homme à travers l'homme créateur, qu'il avoir le document, la date exacte des choses pour que ça soit comme des documents, c'est-à-dire pour l'instruction des générations futures, si vous voulez, pour l'instruction à proprement parler. C'est quelque chose de didactique, enfin. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et il m'a dit ça, qu'il avait encore préféré mes textes, comme, je ne sais pas quoi, le carnet du bois de pain ou des choses comme ça.